Bonjour, aujourd'hui La Marelle vous propose une émission avec Dominique Datola, actuellement en résidence à la Villa des Auteurs, à la Friche, la Belle de Mai. Dominique Datola, qui est réalisateur, qui est de nationalité franco-italienne, qui est né en 1960 et qui a grandi à Manos, qui vient du monde du spectacle, de l'audiovisuel, du cinéma. Il travaille pour la télévision pendant un temps, il travaille aussi comme réalisateur à la Cour pénale internationale de La Haye, en charge de la diffusion, de l'enregistrement des audiences. Bref, il fait pas mal de choses dans le monde du documentaire, mais aussi de la fiction. Il a réalisé un certain nombre de petits films ou de grands films. Son dernier documentaire de fiction, son dernier documentaire de création, un documentaire artistique, s'appelle « Les trois vies du chevalier ». Il va être question de ce film dans cette rencontre. Mais auparavant, on va parler de son projet d'écriture qui s'intitule « Le conte de l'Alicastre ». Il était une fois un monstre sanguinaire qui hantait jadis une petite île côtière de la Méditerranée occidentale. Durant cette émission, il sera aussi question de la performance que Dominique Datola va faire avec ce texte, où il sera accompagné du musicien Madère, qui est un musicien travaillant pas mal dans le monde de l'électro et qui est connu pour ses musiques de films, en particulier des musiques de films d'Ang Lee, Garçon d'honneur ou Sucré salé, si vous avez pu voir ces films. Alors Dominique Datola, c'est quoi ce conte ?
C'est une petite légende provençale, hein, du bestiaire de Provence, mais qui n'a pas eu la même publicité que les autres, c'est-à-dire Tartarin de Tarascon, La Chèvre d'Or avec Paul Arène, Le Racal de Bosco, Le Drac de Draguignan et le fameux Facomocher. Il n'y a que trois lignes dans cette petite légende. Et en fait, je pense savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'elle est tellement archétypale, elle est tellement simple, que je ne pense pas que les littérateurs s'y soient farouchement intéressés. Un navire fait naufrage, un jeune chevalier s'échoue sur le rivage, il est recueilli, soigné, nourri, logé par les pêcheurs, il tombe amoureux, mais les pêcheurs lui disent très clairement: homo collègue, si tu veux la fille, il faut nous débarrasser du dragon. Voilà. Et donc, la légende nous raconte que le jeune chevalier échoué sur cette île délivrera l'île du dragon. Ça, c'est l'Alicastre. Bon, alors évidemment, il n'y a pas forcément de dragon. Je ne pense pas qu'il y ait eu un dragon. Je me dis qu'il y a peut-être, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et que il y a peut-être quelqu'un qui s'est échoué sur le rivage et qui nous a raconté une histoire de son propre pays. Donc j'ai fait le tour des îles de la Méditerranée à la recherche d'une histoire similaire. Je l'ai trouvée, je ne vous dirai pas où je l'ai trouvée. Et le conte de l'Alicastre, que je suis donc en train d'écrire à la Marelle en résidence, ben c'est ce conte que l'on connaît, hein, dont je vous ai raconté en trois mots le résumé, mais agrémenté de son introduction, agrémenté d'une longue quête en Méditerranée pour nous faire apprécier dans les profondeurs qui nous vient de temps immémoriaux. Voilà.
Merci Dominique Datola. Mais au-delà de ce conte, il y a un travail d'écriture qui va un petit peu plus loin. Il y a un autre livre en cours, il y a quelque chose d'autre qui vient s'ajouter.
J'écris un deuxième livre. Alors, que j'aurai pas le temps de finir en résidence, hein, c'est pas ça, c'était pas ça l'idée. C'est pourquoi j'ai voulu raconter ce conte. Alors là... c'est une bien plus longue histoire que le conte lui-même que je suis venu vous raconter. Là, c'est 30 ans, c'est 30 ans d'investigation. Donc, c'est un journal de bord, hein, qui s'écrira au fur et à mesure de nos voyages en Méditerranée, à la recherche de l'Alicastre. Voilà, ça sera un roman. Alors que le premier est un livre d'art. Voilà, c'est les deux premiers objets qui vont être posés sur l'autel du projet.
Tiens, excuse-moi, je t'interromps, mais j'aimerais te proposer d'en lire un extrait.
Naissance d'un dragon.
Chapitre 1. L'île d'Obsidienne. Il était une fois un vieil empereur surnommé le Cygne Noir et son jeune fils, Alessandro, qui régnait sur un château d'Obsidienne, un château terrifiant de noirceur construit dans les nuages depuis des temps immémoriaux sur le bouclier d'un volcan de la Méditerranée orientale. Une île dont les cartes de l'époque feignaient encore d'en ignorer l'existence. Un point minuscule en vérité, malgré son altitude, connu des seuls initiés de la flibuste.
Alors, Dominique Datola, tu vas te transformer, tu vas devenir D. Datto,
pour ce spectacle et tu vas être associé avec M. Madère, qui est le musicien que tu as invité pour cette performance pour une voix et piano arrangé. Tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est venu et puis nous présenter Madère.
Absolument. En fait, c'est un vieux projet. Je ne parle pas de l'Alicastre. Hein. Le projet de l'Alicastre est un projet de 5 ans. Mais le conte, lui, préexiste à cette volonté de raconter cette histoire. Il y a de nombreuses années, je m'occupais de la programmation cinématographique du Festival mondial du conte populaire. C'était les Oralies de Haute-Provence qui tournaient de village en village. Et donc, j'ai assisté à pas mal de représentations de conteurs. Et une fois, dans un restaurant, un conteur hindou vient s'asseoir en tailleur avec son sitar et nous a absolument éblouis. Ça m'a tout de suite interrogé, parce que mon travail, c'est de raconter des histoires au cinéma. Et quand on voit le déploiement technologique du cinéma, je trouvais ce garçon bien plus à propos de nous raconter son histoire, assis en tailleur avec son sitar. Donc, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Alors, évidemment, je ne suis pas musicien, même si je m'intéresse beaucoup à la musique depuis très longtemps. En tout cas, quand j'écris, j'écris à voix haute et j'écris pour que les textes soient dits. Alors, dits, je dis bien dits, éventuellement. Donc, j'essaye de faire de la musique avec les mots, même si ce n'est pas tout à fait de la musique. Et donc, il se trouve qu'il y a une dizaine de jours, je vais à l'anniversaire d'une amie, et qui vois-je ? Oh, qui vois-je ? Thierry Schulheimer, alias M. Madère. Donc, on s'était rencontrés avec Thierry il y a 30 ans à Paris, où lui ne s'en rappelle pas bien, mais moi, je me rappelle d'une très longue discussion que nous avions eue autour d'un groupe de musique qui nous séduisait tous les deux, qui s'appelait The Residents. Voilà. Donc il est parti aux États-Unis, il va vous en parler, et puis je le retrouve il y a 10 jours à Marseille. C'est que ce garçon est marseillais avant d'être américain. Donc bon, il est en vacances, donc ça me gênait un petit peu de lui dire hey, dis donc, est-ce que tu peux prendre un peu de temps sur tes vacances pour venir jouer avec moi. Il a lu le texte et il a embarqué. Voilà, je pense que maintenant il pourra se présenter lui-même. J'ai fait le préambule.
Bon, alors d'abord, bonjour Madère, ou Thierry, je ne sais pas. Cette nuit magique, d'après Dominique Datola, vous n'en avez pas le même souvenir, ou vous n'en avez pas de souvenir du tout, mais ça a quand même noué, il y a 30 ans, ça a quand même noué quelque chose.
Non, je me souviens d'avoir rencontré Dominique à travers un ami qui était aussi batteur, qui était venu faire... Est venu passer quelques mois à New York quand j'y étais, que j'enregistrais à l'époque dans un groupe qui s'appelait Bande à part. On a fait, bon, c'était, on parle des début des années 80. Donc Dominique était un ami. Je sais qu'on s'était croisé, qu'on s'était, mais je me souvenais plus de la discussion. Donc c'est assez marrant de se retrouver 30 ans plus tard chez un ami commun qui m'invite spontanément à faire quelque chose, à collaborer sur son spectacle. Voilà.
Et ça a marché, vous avez eu envie ?
Ben oui, d'abord j'ai trouvé que le texte était sublime et qu'il écrivait vraiment très bien, qu'il avait une facilité ça me faisait penser à des... Borges ou enfin la mythologie, donc j'étais assez impressionné de sa façon d'écrire, et puis c'était un challenge. J'étais là pour en vacances, mais bon, se bronzer à la plage, ça va bien 10 minutes et puis donc je préfère à la limite être dans le bain ici et faire quelque chose d'intéressant. Ouais.
Alors qu'est-ce que vous avez imaginé tous les deux? Qui veut répondre?
Peut-être
Dominique, peut-être
d'abord. La première question que je lui ai posée, c'était d'imaginer différentes façons d'interpréter le conte. Donc, il y a du bourdon, hein, de la musique sous le texte à certains moments, des silences, mais qui sont forcément signifiants parce qu'ils sont musicaux par essence, des virgules musicales, des points d'exclamation pour souligner... des fois avec malice le texte, et puis évidemment la moindre des politesses était de lui laisser des plages musicales qui soient des solos. Voilà. Donc on a travaillé, on en est à notre troisième séance de travail, on répète cet après-midi au moment où sera diffusée cette émission, et puis vaille que vaille, demain 29 juin à 20h30 au non-lieu, au bien connu non-lieu de Marseille.
On lâche la bête. La naissance d'un dragon, c'est le 67 rue de la Palue, le non-lieu dans le 6e à Marseille. Cette manière de procéder, de laisser libre cours au fond à l'imaginaire peut-être à travers la musique, mais en ponctuant quand même un texte, un récit. Je sais que vous avez fait beaucoup de musique de films, Madère. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement est assez proche ou pas?
Oui, je peux dire le procédé d'illustrer un film ou une image ou un texte qui est très, très imagé, détaillé comme ça, c'est un peu le même principe. C'est comment arriver à créer quelque chose qui puisse s'emboîter et apporter quelque chose en contrepoint à l'histoire. Donc c'est un peu le même travail qu'en film, quoi. Ouais. J'ai fait beaucoup de travail comme compositeur de musique de film à New York d'abord, et puis ensuite à Los Angeles où j'habite encore. Et voilà, quoi.
C'est un pont entre Los Angeles et Marseille, alors. Il est question d'un piano arrangé dans cette histoire. Il est arrangé comment?
Ben oui, l'idée, c'est, enfin, je suis arrivé ici, j'avais juste mon maillot de bain, une serviette.
Et pas le piano.
J'avais rien du tout, sauf mon ordinateur où il traînait quelques plages un petit peu, des plages intéressantes, plus abstraites, que je n'ai pas utilisées, des musiques que j'ai faites moi-même. Et j'ai retrouvé un peu du caractère de cette musique dans le texte de Dominique. Ouais. De Dato, et donc on va sûrement utiliser quelques plages un petit peu ici et là, mais bon, je sais qu'on aura un piano, donc l'idée c'était de faire quelque chose qui soit un petit peu improvisé et un petit peu décalé, plutôt calé sur l'histoire, donc quelque chose, c'est une histoire un peu fantastique et accadabrante. C'est donc, bon, un piano, qu'est-ce qu'on peut faire avec un piano pendant une heure sous un texte? Donc, l'idée c'était, et on ne l'a pas encore fait, on va aller à la salle, c'est de préparer le piano. C'est un peu la méthode de John Cage pour avoir des sonorités un peu bizarres, mettre des ressorts dedans, un peu des fourchettes et machins, des trucs, et pour avoir des sonorités un petit peu bizarres. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la lecture de Dominique Datola, le début de ce conte de l'Alicastre?
C'est un morceau qui s'appelle Oban et qui fait partie d'un album que j'ai sorti récemment, de musique assez abstraite et qui était un petit peu du même genre. Donc on utilise quelques plages de cet album qui vient d'un album qui s'appelle Five-Legged Fish, poisson à cinq pattes, donc qu'on peut trouver sur iTunes ou Amazon et tout ça.
Poisson à cinq pattes, Dominique, ça te...
Le poisson à cinq pattes, évidemment, j'ai été voir ce que c'était que le poisson à cinq pattes, parce qu'il y a une très belle illustration sur la pochette du disque, mais j'ai voulu en savoir plus, c'est mon petit côté investigateur, et je suis tombé sur un meuble chinois qui s'appelle le poisson à cinq pattes. C'est en fait c'est une petite table basse à quatre pieds, mais le cinquième pied, en fait, c'est le trou qu'il y a au centre du plateau. Voilà, c'est le vide. Voilà, c'est ça le poisson à cinq pattes.
Ah, un petit mystère de plus. Tout à l'heure, Madère parlait de l'écriture, de cette écriture qui l'a fasciné immédiatement. Tu n'en as pas encore parlé, mais cette différence fondamentale, finalement, que tu inscris avec ce travail sur le conte par rapport à ton écriture filmique, scénaristique, est-ce que tu peux me dire un mot ou deux sur ce que ça te provoque, sur la manière dont ça fonctionne?
En fait, comme je l'avais déjà suggéré sur le blog de La Marelle, l'écriture cinématographique, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, m'a quand même cassé la plume. Parce qu'avant d'écrire des scénarios, j'écrivais tout court. Après, le démon, le dragon du cinéma m'a pris. Et dans la méthode de travail du scénario, Ben évidemment, il n'y a pas d'odeur, si on prend que les odeurs. Il n'y a pas... il y a très peu de voix intérieure, finalement. Donc, c'est une écriture assez limitée qui se rapporte à l'action. C'est plus un plan d'architecte. Hein. Et la seule chair qu'on peut éventuellement trouver au scénario, en tant qu'objet littéraire, c'est les dialogues. Mais c'était un espace, pour moi, qui finissait par être trop restreint. Donc, en te rencontrant, Pascal, et en te proposant de venir en résidence ici, c'était pour reprendre un vieux travail, une vieille façon d'écrire. Et évidemment, dans cette vieille façon d'écrire, moi, je m'inscris dans une lignée qui va celle de François Villon au symboliste, jusqu'à Malraux, jusqu'à Laurence d'Arabie. C'est l'épopée, c'est l'épique. Et même Victor Hugo. Et c'est l'épique dans la... Alors, pas que l'histoire, mais dans la façon de la raconter. Quand les gens me voient me déplacer dans le réel, je suis quelqu'un qui écoute de la techno, qui roule en moto, enfin, qui a un certain look. En réalité, quand les gens découvrent mon travail, il est beaucoup plus classique, mais il n'y a pas de dichotomie entre ce que je suis et ce que j'écris. Je suis un... Et on est tous d'accord ici pour dire que le tout est supérieur à la somme des parties.
Oui, Madère est d'accord. Un petit mot, une ou deux minutes, sur le deuxième événement de la semaine, qui est cette projection de ton dernier film documentaire artistique, ou de création, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, Les Trois Vies du Chevalier. Avec un événement et puis une commémoration historique même.
Alors, tu fais bien de dire documentaire artistique, documentaire de création. J'ai du mal à le qualifier. Il rentre pas, en tout cas, dans les grilles de la nomenclature des genres du documentaire. C'est vrai que la forme est libre. La forme est libre parce que essentiellement les grands diffuseurs ou les grands producteurs liés aux télévisions ne s'y sont pas associés. Du coup, j'ai pu faire un ouvrage à ma convenance. J'ai été très libre sur la forme, puisque je n'avais d'autres bailleurs de fonds, au départ en tout cas, que moi-même. Donc, Liberté, oui, c'est un film sur l'histoire de la liberté de penser, depuis l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas du tout voulu en faire un film rébarbatif, parce que le véritable enjeu, c'était de montrer, d'expliquer ce que c'est que la laïcité, en la remettant à sa juste place. Voilà, tout ce combat qui a été entrepris par les philosophes des Lumières depuis le XVIIIe siècle et qui a été repris, je reparle encore de Victor Hugo, mais qui a été repris par les grands penseurs du XXe et par les militants aujourd'hui qui continuent de se battre pour que la liberté de penser soit une réalité dans ce pays. Quand je fais des projections avec les adolescents, je pense aux lycéens, pour bien leur faire comprendre, je me remets dans les pas du philosophe Henri Pénard-Ruiz, qui est le grand vulgarisateur de la laïcité, qui est dans le film, et qui dit que la laïcité, c'est l'air que l'on respire. Alors, il est bien évident que si on est privé d'air, c'est là qu'on se rend compte que l'air existe. Donc, ce que je fais avec les minots, c'est que je leur demande de se boucher le nez et de retenir leur respiration. Et forcément, au bout d'un moment, ils font... Ils n'ont plus d'air. Je leur dis, la liberté, c'est la même chose. Tant qu'on a cette liberté, on ne se rend pas compte qu'elle existe. Alors que les anciens se sont battus, ont perdu leur vie pour que cette liberté existe. On a vu Essel qui a fait « Indignez-vous ». Qui finalement était un petit livre d'une vingtaine de pages qui pour nous, rebelles, était quelque chose finalement d'assez édulcoré, mais qui dans la jeunesse a eu un retentissement planétaire. Enfin, ce livre est incroyable, parce que les altermondialistes s'en sont emparés et ils se battent, ils se sont battus, ça se passe pas très bien, tout le monde le sait, mais j'ai essayé... non pas de copier le sujet, mais lancer une alerte, voilà, sur notre liberté de penser. Alors évidemment, le film est sorti en 2014, avant les attentats, donc il a eu une sortie très confidentielle. Je dois avouer que depuis les attentats de Charlie, le Bataclan, le film est beaucoup plus demandé et sert maintenant de référence au corps enseignant. C'est-à-dire que les ESPE, hein, les écoles supérieures professorales de l'éducation, prend ce film pour illustrer et pour former les jeunes enseignants au concept de la laïcité. J'en suis absolument très fier. Donc, le 1er juillet, il n'y avait pas eu de projection à Marseille. Il y avait eu une projection très confidentielle à la Maison de la Région sur la Canebière au mois, je ne sais plus, au printemps. Et donc, voilà, grâce à ton intermédiaire, William Benedetto de l'Alhambra, que je remercie au passage, a décidé de programmer ce film. Donc c'est une soirée débat qui sera animée avec les philosophes publics de Marseille et qui se conclura par la dédicace de la première édition DVD qui sort en ce moment. Voilà.
Et j'avais parlé d'un événement, 250e anniversaire de la mort du Chevalier de la Barre, qui est le sujet...
Voilà, alors, film, parce que le fil conducteur de cette histoire de la laïcité, c'est le Chevalier de la Barre. Le Chevalier de la Barre était un jeune noble désargenté qui a eu le malheur de passer à moins de 20 pas d'une procession religieuse, celle du Saint-Sacrement, où il oublie d'ôter son chapeau.
Ouais, et puis...
Et à partir de là, c'était un blasphème épouvantable. On fait une
perquisition. Parce que c'était l'époque de pré-révolution française, voilà. Avant la Révolution française.
Bon, on ne va pas raconter le film là, parce qu'il faut aller le voir. Ce n'est pas que le film qu'on va raconter, c'est toute l'histoire de la construction de la laïcité, finalement, qui
Absolument.
S'est faite à partir de là. À l'Alhambra, vendredi 1er juillet, à 20h30. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis demain, au non-lieu, donc 67 rue de la Palue, on vous retrouve des Dato et M. Madère pour cette performance pour une voix et piano arrangé Naissance d'un dragon. Merci.
Merci.
Petit complément, l'Alhambra et la Marelle mettent en jeu 10 places gratuites pour la représentation du 1er juillet à l'Alhambra des trois vies du chevalier. Pour gagner une de ces places, il suffit d'envoyer très rapidement un mail à contact@la-marelle.org, contact@la-marelle.org, avec vos noms et coordonnées. Les 10 premières personnes à répondre auront une place gratuite pour cette représentation. Voilà, c'est la fin de cette émission avec D. Dato, Dominique Datola et M. Madère, le musicien, qui l'accompagnera demain pour cette performance Naissance d'un dragon, mercredi 29 juin 2016 à 20h30 au non-lieu 67 rue de la Palue dans le 6e à Marseille. Et je vous invite à découvrir le travail d'écriture de Dominique Datola à cette occasion, mais aussi peut-être dans les différents textes qu'on peut trouver de lui. Bonne fin de journée et à bientôt.